pas que je sache.
Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous sommes en 2025. Je ne suis pas aussi prêt que j'aurais voulu l'être pour ce début d'année. Voilà, ça n'a pas fait partie de mes résolutions de commencer à l'heure et prêt. On fera mieux la prochaine fois. Je suis encore un petit peu en vacances. En fait, non, je ne suis pas un petit peu en vacances, je suis en vacances officiellement. Je suis tellement bien organisé que j'ai réussi à prendre une présidence en vacances. Donc voilà, pardonnez-moi si je suis encore un petit peu en vacances dans ma tête, c'est que je le suis en fait. Voilà, bienvenue en tout cas pour ce premier culte de l'année. Bonne année à chacun, à chacune. J'espère que vous avez passé un bon temps de Noël, de Nouvel An. Certains le font plus que d'autres. Hein. Nous, on fait toujours assez léger en général. On va se coucher assez normalement. Voilà, pas de feu d'artifice. Enfin, si dans le quartier, ça nous réveille, mais voilà. En tout cas, nous, chez nous, on n'a pas de feu d'artifice. J'espère que pour ceux qui ont eu des vacances, vous avez passé de bonnes vacances. Certains ont peut-être pu profiter de la neige par là-devant, je ne sais pas. Oui, nous, on a fait une journée à la neige. Voilà, c'était peu, mais c'était très bien aussi. On a profité d'aller faire un peu de bob. Je vous prépare un petit peu. Tout à l'heure, nous allons vous donner de la place pour un temps de témoignage. Alors, il paraît que vous avez déjà eu ça l'année passée. Je dis l'année passée, c'était la semaine passée, je crois, c'est ça? Ça me fait bizarre, hein? Je n'étais pas là, mais voilà, il y a eu un temps de témoignage déjà. Donc, on va improviser un petit peu, on va faire un peu autrement, mais il y aura quand même un temps de témoignage tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va cadrer ça? Je dirais peut-être autour de, voilà, peut-être l'année 2024, comment vous voyez l'année 2025, comment vous vivez ces passages d'année, est-ce que vous prenez un temps de prière, de préparation par rapport à ça, comment vous vivez ces temps? Hein, peut-être qu'on va essayer d'avoir des témoignages là autour. Et puis si ce n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, ça va aussi. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, que vous avez vécu en 2024 et que vous avez envie de partager, que vous n'avez peut-être pas dit la semaine passée, eh bien, sentez-vous libre de le faire tout à l'heure. Voilà, je vous laisse réfléchir et puis en attendant, je vous fais quelques annonces. Car la vie d'église reprend mardi déjà, mardi soir à 20h. Alors, est-ce que c'est encore à confirmer? C'est ça, c'est à confirmer. Vous le savez peut-être, peut-être pas. Philippe a un problème avec son pied, peut-être qu'il vous en dira deux mots tout à l'heure. Donc voilà, il est en arrêt, c'est juste, hein? Voilà. Et comme moi je suis en vacances et je suis là, et lui il est en arrêt et il est là. Bon départ en 2025. Donc voilà, normalement il y avait l'atelier biblique ce mardi à 20h sur le sujet des finances de l'Église, bâtiments et travaux, mais on vous confirmera ça. Je ne sais pas comment. Demain ou mardi matin. Sur le groupe WhatsApp, c'est ça? Ou peut-être qu'on envoie un actu juste pour ça. On verra. On va se concerter pour communiquer au mieux. Mais peut-être, voilà, si vous pensez venir, assurez-vous que vous avez eu l'information avant de venir mardi. Aussi, pour vous parler d'une nouvelle initiative qui commencera le dimanche 12 janvier, des moments de louange à la chapelle, donc une initiative de David Jeunecamp, qui a proposé de, voilà, d'animer des moments de louange. Il y en aura plusieurs qui sont planifiés, mais le premier, ça sera le dimanche 12 janvier, un moment simple autour du psaume 100, de 18h à 19h. Donc voilà, venez simplement participer à ce temps, et puis on vous annoncera les autres dates qui sont déjà planifiées. Mais voilà, elles sont dans le programme qui est à la sortie, elles sont aussi sur le site web, et puis on les mettra dans l'actu Mérin. Aussi vous dire, je crois que c'est la première fois, ou peut-être qu'on l'avait déjà dit dans un cumérin, nous avons bientôt la semaine universelle de prière et nous accueillons une soirée dans le cadre de cette semaine ici à Mérin. Ce sera le mercredi 15. Et alors voilà, on était tout contents de s'impliquer là-dedans avec Philippe et on imaginait que la soirée allait commencer aux alentours des 20h. Et puis juste avant nos vacances, on a reçu un mail avec tout le programme et c'est vrai qu'il est pas mal plus conséquent que ce qu'on imaginait. Donc, on se dit, bon, on verra ça à la rentrée. Donc, ça commence déjà à 19h et puis ça va jusqu'à 21h30. Voilà. Donc, de 19h à 21h30, il y aura une soirée ici avec des gens de toute la ville de Genève, de la région qui vont venir pour prier pour les sujets qui sont voilà, choisis cette année. Donc venez nombreux. Si vous n'arrivez pas à venir à l'heure, d'après ce que j'ai compris, c'est pas grave. Ils font aussi un long temps comme ça pour que les gens puissent venir à différents moments. Donc voilà, si vous finissez le travail tard, que vous devez encore manger, eh bien, faites cela et puis c'est encore possible de venir et de vous joindre en cours de route. N'ayez pas peur de, voilà, de déranger. Si vous arrivez un petit peu après, c'est fait pour, d'après ce que j'ai compris. Aussi vous dire qu'il y a la reprise du caté et du groupe de jeûne ce vendredi. Donc, bienvenue, même si vous ne faites pas encore partie du caté ou du groupe de jeûne, vous pouvez nous rejoindre, donc n'hésitez pas. À, j'ai pas noté l'heure, mais 18h30, merci. Et puis une dernière annonce, ma femme Rebecca sera absente 3 semaines, elle part au Nigeria demain. Donc voilà, n'essayez pas de la contacter pour des choses qui concernent l'église durant ce temps. Alors elle pourra toujours répondre par WhatsApp, mais ça prendra un peu plus de temps selon la connexion internet qu'elle a. Et sachez qu'elle ne sera pas par ici. Ça m'affectera aussi un petit peu, vous vous en doutez. Je serai là, je serai présent, principalement avec les enfants. Mais voilà, je réduirai un petit peu mon travail au strict minimum, comme on dit, au minimum syndical. Donc excusez-moi si je réponds peut-être pas aussi vite que d'habitude ou si je vous dis attendons le retour de ma femme si ça peut attendre. Voilà. Et puis merci aussi pour vos prières par rapport à tout ça. Je vous partage encore 2-3 pensées que j'ai écrites hier parce que moi aussi je me suis dit mec, voilà, on vient de passer une année. Souvent, j'aime bien prendre du temps pour me poser au début de l'année. Cette année, je n'ai pas tellement réussi à le faire. Donc, j'étais là hier matin à mon bureau en train de me dire, OK, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie, qu'est-ce que ça m'inspire? Et puis, je pensais au temps qui passe. Voilà, on a passé d'une année à l'autre. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Lui, il est hors du temps. Donc, voilà, je ne sais pas si... il se met à notre niveau et puis il compte les années comme nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas du tout la même notion du temps. Et j'ai écrit ces 2-3 lignes par rapport à ça. On dit qu'il passe lentement ou qu'il passe vite. Néanmoins, nous savons que le temps est le même pour tous, hein, normalement. Il passe lentement si nous nous ennuyons, n'est-ce pas? Les enfants, en tout cas, ils le savent. Ou il passe trop vite si on fait quelque chose qui est excitant, hein. Dommage que ça soit déjà fini. Il semble également s'accélérer avec l'âge qui avance. Ça, c'est étonnant, hein, quand même. Notre perception du temps évolue suivant la saison de vie dans laquelle nous sommes. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir tout le temps ou au contraire d'en manquer, ce qui nous pousse à revoir nos priorités. Nous pensons parfois être maîtres du temps, mais seul Dieu est maître du temps. Lui pour qui un jour est comme 1000 ans, lui qui est éternel. Il nous connaissait avant même notre naissance et il connaît le nombre de jours qu'il nous reste à vivre. Bien souvent, et je crois que je l'avais déjà partagé une autre fois, j'ai l'impression moi d'être sur un tapis roulant. Vous savez, ces tapis roulants qu'on trouve dans les aéroports, pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, ces longs tapis roulants à plat, et puis on peut soit choisir de marcher à côté du tapis roulant ou alors de marcher sur le tapis roulant, ce qui nous fait marcher plus vite que les autres. Ça, c'est un truc qui me parle bien, j'aime bien marcher plus vite que les autres. Mais j'ai parfois l'impression que ma vie est sur un tapis roulant et que quand j'essaye de m'arrêter pour prendre le temps, eh ben, y a tout qui avance quand même. J'aimerais arriver à sortir de ce tapis roulant pour faire une vraie pause. Pas facile. C'est donc ma prière pour ma vie et c'est aussi ma prière pour chacun d'entre nous. Que nous puissions prendre le temps cette année. Oser se questionner sur ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Risquer des changements, sortir du tapis roulant et laisser le maître du temps nous parler en son temps. Voilà, maintenant c'est à vous la parole. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous dire? Que vous avez vécu en 2024, ça peut être une résolution que vous avez prise avec Dieu, quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie, peut-être quelque chose que vous avez vécu lors du passage de la nouvelle année, à Noël. Oui.
Bonjour à chacun. Donc, je suis Séverine. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Ça fait 3 ans maintenant qu'avec ma cellule de prière, on est 5 jeunes femmes qui avons d'ailleurs vécu le groupe de jeunes à Mera ensemble et qui sommes encore en cellule ensemble. On se donne en début d'année la mission de trouver un mot pour l'année. Parce qu'on sait très bien que les résolutions, au bout de 2 semaines, elles sont déjà un peu écorchées, puis au bout d'un mois, elles n'existent plus trop. Et puis donc, on s'est donné cette mission-là il y a 3 ans. Et puis moi, il y a 3 ans, j'avais choisi le mot « le temps », comme voilà, c'est le thème de ce matin. Et en fait, j'ai passé une année un peu avec ce mot en tête. Et ce qui est chouette en choisissant un mot, c'est qu'on donne une intention à l'année. Et du coup, ce mot, il m'est revenu plusieurs fois. Et puis à la fin de l'année, ça ne me suffisait pas d'avoir ce mot-là. J'ai donc choisi le deuxième mot pour l'année d'après, c'était « ralentir ». Et puis, durant cette année-là, on est parti en voyage en famille, on a ralenti ensemble et ça a donné cette intention-là. Et ça ne m'a toujours pas suffi. Donc, l'année passée, j'ai choisi le mot « repos ». Et puis, c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à nos moments. Qu'est-ce que je mets derrière ce mot « repos » ? Est-ce que mon repos, c'est juste le sommeil ? Est-ce que c'est me reposer en Dieu ? Est-ce que c'est apprendre à dire non ? Et donc, j'ai fait ces étapes-là et je suis en pleine rumination pour le mot 2025. Et je vous invite vraiment à prendre un temps avec Dieu et à lui demander quel est votre mot pour l'année. Et que vous puissiez aussi donner une intention à votre année.
Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager ?
J'avais aucune intention de parler, mais ce qu'elle vient de dire, Mélanie, non pas Mélanie, Séverine, pardon, ça me parle de temps. Moi, que je n'ai jamais le temps, je cours tout le temps. Dieu m'a déjà arrêté plusieurs fois, mais je me lève et je continue. Le tapis, ça me parle beaucoup parce que dans les aéroports, ça m'énerve ces tapis, alors je sors du tapis pour aller plus vite. Enfin, je suis toujours au même état. Mais ce que je veux dire par rapport au temps, il y a être pressé et la sagesse de notre Dieu, l'amour de notre Dieu. Hier, j'ai eu 2 personnes qui ont voulu me voir, oui. Des gens que je ne voyais pas et que je n'entendais pas depuis des années. Et j'ai dit tout de suite oui. Une à 5 heures, l'autre à 7 heures, oui, tout excité. Et dès que j'ai décroché, j'ai commencé à paniquer. Il a dit, mais Seigneur, je ne voulais pas, j'ai aucune envie de cela. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le Seigneur, dans sa bonté, il a annulé les 2 rendez-vous. Alors, ça ne sert à rien de courir, il faut laisser Dieu faire, il sait très bien faire. Moi, maintenant, il sait m'arrêter. Il arrive à m'arrêter, parce que pendant longtemps, le Seigneur n'arrivait même pas à m'arrêter, tellement j'étais désobéissante. Je veux que toute la gloire lui revienne.
Merci. Alors, je ne peux pas empêcher quelqu'un qui a un autre thème, autre chose à partager, mais je trouverais bien qu'on reste dans ce thème. Hein, vous avez remarqué qu'il y a un petit thème. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au temps, la gestion du temps ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous avez peut-être trouvé des trucs ? Hein, des fois, Dieu nous donne des révélations, ou des fois, on a des révélations, des techniques qui nous aident dans notre gestion du temps pour se reposer. Ça veut dire quoi, se reposer ? Comment vous vous reposez ? Je fais aussi partie des gens qui, quand il y a trop de gens sur le tapis roulant, passent à côté et prennent le plus vite. Vous me faites courir, c'est bien.
Alors pour moi, m'arrêter, bon, j'ai eu une période où j'ai dû m'arrêter également. Et maintenant, je mets dans mon agenda des plages repos. Donc une journée où je ne prends aucun rendez-vous, juste du temps pour moi, du temps pour me reposer, du temps pour être avec Dieu et m'arrêter.
Merci. Et c'est pas toujours facile, hein, Certains peut-être se disent même, oh ben moi je peux pas, j'ai pas de journée comme ça où je peux m'arrêter. Ça demande parfois de faire des choix compliqués, mais il faut les faire.
Bonjour, c'est David. Moi, ça fait plusieurs années que, ça fait même depuis que je suis enfant, qu'il y a un texte dans la Bible qui me confronte et que j'ai du mal à ressortir. C'est ce texte où Jésus se rend chez Marthe et Marie, et Marthe prépare tout, prépare une maison tip-top, prépare le repas, prépare des tas de choses, toute sa maison, elle travaille. Et puis elle voit sa sœur qui accueille Jésus. J'ai pas dit ça, Anne. Et puis, pour moi, c'est la logique même qu'il faut faire comme Marthe. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis comme vous, il faut faire. Et la réponse de Jésus, quand Marthe dit, mais Marie, tu pourrais venir m'aider à faire les tâches de la maison. Eh bien, Jésus dit, eh bien, Marie, elle a pris cette part de m'écouter, et puis je ne vais pas lui l'enlever. Et puis il lui fait même un reproche, Jésus, il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et enfin, je ne suis toujours pas très à l'aise avec ce texte, hein, parce que c'est vraiment une tension. Enfin, mais depuis quelques années, j'essaye de vivre plus ça. Avant de m'engager à faire quelque chose, eh bien, de rencontrer le Seigneur, de prendre du temps, d'écouter de la musique, de jouer de la musique. Enfin, on a tous des occupations aussi de loisirs qui nous permettent aussi de nous centrer avec Jésus. Et, enfin, pour moi, c'est un mouvement que j'ai depuis 2-3 ans qui me fait beaucoup de bien et que j'encourage. Et voilà, alors, on se dit, oui, mais c'est pas comme ça qu'on va trouver du monde pour faire des prédications, pour faire des présentations, pour faire les nettoyages de l'église, etc. Et puis pour faire de l'évangélisation. Puis comment on va faire s'il n'y a pas de Marthe? On va pas y arriver. Ben, je crois comme Clémentine, merci. Comme Clémentine vient de le dire, mettons-nous déjà à l'écoute de Dieu. Et puis ensuite, il nous montrera déjà comment on va agir.
Merci. Il y a de la sagesse hein, ce matin. Est-ce qu'il y a des Marthes par ici? Tu n'es pas le seul à être confronté par ce... J'ai un sentiment d'injustice quand je lis ce passage. Un peu moins maintenant aussi, mais... Ouais. Je me dis, Dieu m'a donné mes dons, qui est de m'activer, de servir, de faire plein de choses. Et puis là, il dit, non, ce n'est pas ça la priorité. Donc il doit y avoir un moyen de le vivre quand même, mais de la bonne manière. Hein. Pas facile. Ouais.
Bon, alors ça me fait sourire parce que moi j'ai l'impression que le Seigneur il me dit que je devrais être plus Marthe. Parce que c'est vrai que j'aime mieux recueillir ou apprendre sur Dieu que de faire la poussière, que de passer l'aspirateur. Mais je crois qu'il y a aussi un équilibre à avoir. Alors, tu m'apprendras, puis je t'apprendrai.
Oui, on va faire des échanges, hein, comme ceux qui font des échanges linguistiques. On peut aussi faire des échanges entre les Marthe et les Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait encore ajouter quelque chose? C'est OK.
Bonjour, c'est Sylvie. C'est la première fois que je prends la parole devant vous tous, je crois, à part dans la louange depuis quelque temps. À la fête de Noël, j'ai réalisé en arrivant que pour moi, ça avait une espèce de goût de premier anniversaire, cette fête de Noël. Parce que l'année d'avant, en 2023, j'étais venue pour la fête de Noël et c'était la première fois que je restais pour un temps de partage et de convivialité après un culte où du coup là c'était la fête de Noël. Jusque-là, j'étais venue quelques fois, mais assez timidement, en m'asseyant plutôt derrière, en vous regardant de dos, du coup. Et puis, cette fois-là, je m'étais dit, ah, j'ai envie de rester, parce que c'est une manière d'apprendre à connaître des gens et de me laisser un petit peu connaître. Mais j'étais un peu sur le seuil de la porte. Est-ce que je reste? Est-ce que je repars? Et puis, j'ai été accueillie par quelques-uns d'entre vous qui m'ont adressé la parole, qui m'ont fait remarquer que j'étais la bienvenue et que voilà. Et depuis, en fait, cette année, en venant du coup, je me suis dit, ah, c'est comme une sorte d'anniversaire. Et en même temps, j'ai réalisé que pendant une année qui peut paraître parfois extrêmement court, suivant le critère de l'année en question, si je regarde, maintenant je suis assise devant, je vous regarde et il y a plein de gens parmi vous avec lesquels j'ai commencé à tisser des liens et du relationnel et des relations, des conversations au cœur à cœur avec souvent parfois beaucoup de profondeur. Et en fait, bah, du coup, je me sens reconnaissante pour cette première année à l'Église évangélique de Mérin. Ça a été une bonne surprise quand je suis arrivée ici. Et puis, cette bonne surprise du début ne fait que se confirmer au travers des liens qui se tissent. Donc, j'ai de la reconnaissance. Évidemment, j'ai de la reconnaissance pour Dieu de m'avoir conduit là, dans mes recherches, un peu comme ça, avant d'arriver ici. Et puis, j'ai de la reconnaissance pour vous. En tant que communauté, j'ai de la reconnaissance aussi pour chacun de vous, pour ceux avec lesquels maintenant je peux mettre des prénoms sur plein de visages et même des bouts de relations qui se tissent. Donc voilà, c'est plutôt de la reconnaissance, un petit peu à voir avec le temps aussi, parce que c'est une année, waouh, quelle différence en une année en fait.
Merci beaucoup. Dernier témoignage, après on n'arrivera plus à tenir les enfants.
Bonjour, je m'appelle Thérèse, je suis la maman de Jean-Pierre et je ne fais pas partie de l'Église évangélique, mais depuis que Jean-Pierre est là, je viens souvent chez vous et je me trouve vraiment à l'aise. Je me trouve vraiment très bien, mieux que dans mon église actuelle. Quand il joue du piano, j'aime venir parce que c'est mon fils, je l'aime. Et j'aime l'accompagner et je me sens très bien ici. Merci.
Voilà. Ça pourrait être un de nos mots d'ordre pour l'année 2025. Hein. Continuons à bien accueillir les gens. C'est important, ça fait partie de nos priorités. Le vivre ensemble, la jeunesse, la chapelle, ça continue d'être dans nos priorités pour cette année. Donc, ouais, faisons de cela notre priorité, pas juste pour le conseil, pas juste pour ceux qui sont engagés comme nous dans l'Église, mais aussi pour chacun de nous, que nous sachions accueillir ceux qui nous visitent, ceux qui viennent pour la première fois. Soyons sensibles à l'écoute de Dieu aussi en accueillant les gens qui sont parmi nous. Merci pour ces témoignages. Les enfants, je vais prier pour vous et puis vous pourrez descendre dans vos groupes. On vous libère. Merci Seigneur pour chacun de ces enfants, chacune de ces vies, le potentiel qu'il y a dans chacun d'eux. On prie que tu les bénisses, que tu les enseignes, que tu bénisses aussi, que tu inspires les moniteurs qui donnent de leur temps, qui se préparent pour eux. Merci pour chacun d'eux et qu'ils puissent vraiment apprendre de toi encore cette année. Amen. À tout à l'heure les enfants et merci aux moniteurs qui se sont préparés. Je laisse la place à David, au groupe de louanges, pour un temps de reconnaissance et de louange à notre Dieu.
Merci. Merci pour tout ce qui a été partagé. Vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Effectivement, qu'est-ce qui nous permet, je crois, de chanter des paroles comme telles qu'on les chante dans nos chants de louanges? Toi, précieux Fils unique, toi, précieux comme un diamant, toi qui es miséricordieux, des termes qui sont assez forts qu'on utilise, pas dans le vocabulaire courant. Eh bien, je crois que c'est cet esprit qui nous fait l'air. C'est les témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Nous imprègnent et nous amènent à cette louange. Et j'espère que chacun d'entre vous, ceux qui n'ont pas pris la parole aussi, vous vous avez cette envie et ce goût de célébrer le Seigneur, de le louer avec ces paroles qu'on va chanter maintenant. Dieu Sauveur.
Dieu seul sauveur, parce que tu as venu sur terre. Parce que tu es à pleurer et souffert. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu comprends mes peurs. Parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis.
Je lis dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans le pays. Je vais prier pendant que Philippe s'approche. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour Philippe qui s'est préparé pour ce message. Merci de préparer nos cœurs afin que ce qui va être semé puisse porter du bon fruit. viens arroser, viens faire ce travail de jardinier dans la terre de nos cœurs. Et merci d'être avec Philippe alors qu'il partage ce qu'il a préparé. Amen.
Amen. Merci Thierry. Bonjour à chacun, à chacune. Je vous souhaite une belle année. Belle année 2025, elle a commencé. Je vous la souhaite aussi douce et joyeuse que possible. Petite revue de presse de ce matin, c'est pas dans mes notes parce que c'est arrivé ce matin et mes notes étaient prêtes un petit peu avant. J'aime bien prendre un petit moment le matin pour lire quelques quotidiens. Et puis il y avait un bel article du Monde sur un phénomène qui se développe sur l'île de Cuba, avec sur l'île de Cuba des graffitis qui fleurissent sur les murs avec ces mots-là. Necesitas ser feliz. Alors, je ne suis pas très doué en espagnol. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Quelqu'un peut traduire. Necesitas ser feliz. Tu dois être heureux. Ok. Necesitas. Tu as besoin d'être heureux. Alors, le Monde traduisait. Tu dois être heureux. Mais je fais plus confiance à ta traduction qu'à celle du Monde. Une tyrannie de la joie. Et quelques-uns interviewés à Cuba disaient « Mais c'est normal chez nous qu'on nous dise « Tu as besoin, tu dois être heureux » parce qu'à Cuba, on nous dit ce qu'on doit faire. » Puis c'est dans la Bible aussi. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Moi, j'ai la joie plutôt facile. Il m'en faut peu. Une super soirée entre amis, une bonne bouteille de vin, de la musique qui fait du bien au cœur, aux oreilles, le soleil qui revient, les comptes qui sont équilibrés, une annonce de baisse d'impôts. Il m'en faut peu pour être heureux. Puis est-ce que ça marche vraiment ? Enfin, voilà, c'est peut-être des choses qui me traversent en ce début d'année. Et puis j'aimerais les faire résonner un peu avec le texte que Thierry a lu, qui est le texte de l'Épiphanie. Et je me suis permis à l'avance de programmer ce texte pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas toutes les années que nous fêtons le dimanche 5 janvier l'Épiphanie, la venue des rois mages au pied de Jésus. C'est aujourd'hui, et nous allons le marquer de différentes façons. Alors comment ne pas espérer, comment ne pas souhaiter que l'année qui commence soit une année empreinte de joie. C'est ce qu'on se souhaite. Si la foi chrétienne, elle sert à quelque chose, ne serait-ce pas justement pour rendre la vie plus joyeuse qu'elle ne serait sans elle ? Les héros de l'histoire que nous avons entendus dans l'évangile de Matthieu, des héros qui ne sont ni rois, ni trois, et qui ne s'appellent pas Gaspard, Melchior et Balthazar, si nous en tenons à la version de la Bible en tout cas, ces héros, nous dit le texte, furent réjouis d'une très grande joie à la vue de l'étoile à Bethléem. Une très grande joie. N'est-ce pas ce que nous voulons au fond ? Une très grande joie ? N'est-ce pas ce que nous avons envie dans nos tripes ? De la joie ? Nous nous sommes souhaités, nous allons encore nous souhaiter une année joyeuse, pleine de réjouissances en tout genre. Seulement, il faut être conscient qu'il ne suffit pas de se souhaiter une année joyeuse pour qu'elle le soit. Ça ne suffit pas. Moi, le 31 décembre, j'ai passé une soirée géniale avec des amis. Ces soirées qui font juste du bien à l'intérieur. Et puis on se souhaite une année joyeuse, on espère qu'elle l'est, puis le premier au matin, il y a du soleil, puis on se dit avec Heidi, première rando de l'année, notre passion, la rando. On s'équipe un peu vite, trop vite pour moi, mais on y va, je sentais que ça coinçait sur le pied, mais on y va. 2 bonnes heures et demie, plan les watts, Bardonnay, le top du top. On rentre, impossible de poser le pied par terre. Mais impossible. Direct, le lendemain, aux urgences. Puis, vous connaissez quoi, les urgences, on attend, il y a des gens qui toussent, qui vomissent. J'avais très besoin d'aller faire pipi. Je vais faire pipi juste le temps de remarquer que la personne avant moi, elle avait fait pipi sur la cuvette. C'est pas très agréable comme sensation. Je l'avais plus eu depuis 8 ou 10 mois d'âge. Journée de... Merci. La joie plombée. C'est la raison pour laquelle je suis assis là. Voilà, il faudra récupérer dans les jours qui viennent. Il ne suffit pas de se souhaiter une année joyeuse pour qu'elle le soit. D'ailleurs, plus on se souhaite une année joyeuse, plus elle a de probabilité de ne pas l'être. Parce que si nous pensons que l'année va être joyeuse parce que quelqu'un nous l'a souhaité, c'est de la superstition. Et nous aurons beau attendre la joie, elle ne viendra pas, la joie, au prétexte que quelqu'un nous a dit qu'il espérait bien que la joie soit au rendez-vous. Ça ne marche pas comme ça. Et puis un autre risque avec la joie, un petit peu dans le sens de ce que j'ai lu ce matin sur ces graffitis dans les murs de Cuba, tu as besoin, tu dois être heureux. Un des risques avec la joie, c'est de faire de la joie un but en soi. On veut que l'année soit joyeuse, alors on va tout faire pour qu'elle le soit. Et en général, on rate l'objectif parce que la joie n'est pas un but en soi. Et c'est ce que nous révèle le passage biblique qu'on va méditer quelques instants. La joie n'est pas le but des mages. C'est parce qu'ils atteignent le but qu'ils s'étaient fixé qu'ils sont joyeux. La révélation de ce passage biblique de Matthieu 2, 1 à 12, c'est que la joie est le signe, on pourrait dire le symptôme, d'un but qui est enfin atteint, d'un projet qui est mené à son terme, d'une tâche qui est accomplie. Autrement dit, si nous voulons que notre année 2025 soit réjouissante, eh ben c'est pas en organisant des fêtes, c'est pas en organisant des concerts, c'est pas en allant à des spectacles comiques, à des stand-up que nous y arriverons. Tout cela pourrait provoquer de la bonne humeur, mais ça ne va pas nous réjouir d'une très grande joie. Pour le dire d'une manière assez radicale, la joie vient par le travail. Pas forcément le travail salarié, pas forcément par le métier, mais par le travail. Par le fait d'entreprendre, par le fait de faire, pardon Marthe et Marie, par le fait d'être en action. C'est ainsi que les mages en viennent à se réjouir. C'est parce qu'ils se mettent en action. Et c'est ce que je vous propose d'observer ce matin, en repérant que la démarche des mages a tout d'une logique de la gestion de projet, avec ses étapes fondamentales. Analyse, objectif, moyen et contrôle. Peut-être que vous qui avez fait quelques études commerciales, vous avez entendu quelque chose comme cela dans votre formation ou dans votre stage en entreprise. Alors, entendons-nous bien, on n'est pas là dans l'amphi des sciences économiques, on n'est pas dans un incentive du Crédit Suisse comme j'ai pu en faire il y a quelques années, on est dans une église. Mais quand même, un projet, c'est un processus qui met en œuvre, et on va le découvrir rapidement avec ce texte, un processus qui met en œuvre quatre étapes. Une analyse, des objectifs, des moyens, et finalement un contrôle. Tout ça n'a rien de spécifiquement chrétien, on est d'accord, parce que, comme dit, on n'est pas en entreprise. Mais ce qui peut être spécifiquement chrétien, c'est la manière de mettre en œuvre cette méthode qui permet à la fin de susciter, je crois, une très grande joie. Analyse. C'est la première étape. C'est le constat de départ. Si nous nous lançons dans un projet, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a un manque, qu'il y a une envie, qu'il y a une situation insatisfaisante, peut-être parce qu'on en fait trop, peut-être parce qu'on n'en fait pas assez, peut-être parce qu'on est au pied du mur et on se met en mouvement. Par exemple, si je dis j'ai soif, ça c'est l'analyse, j'ai soif. C'est le moment où l'observation de mon environnement, l'écoute de mon corps, me conduit à éprouver un manque. Une insatisfaction, une envie, voire un désir. Ce qui est spécifiquement chrétien ici, c'est d'éduquer notre regard pour observer notre environnement de telle manière que nous puissions repérer ce qui dans notre environnement ne va pas, ce qu'il conviendrait d'améliorer, ce qu'il faudrait faire. Et je crois que cette éducation du regard, pour nous qui sommes chrétiens, elle vient essentiellement de la Bible. Nous y lisons, dans la Bible, un idéal de vie évangélique. Nous y lisons des récits qui aiguisent notre conscience, qui nous permettent d'être sensibles au malheur, à l'injustice, à la souffrance, au manque. À force de lire la Bible, nous intégrons l'idéal évangélique et cela nous permet de réagir quand le réel n'est pas en harmonie avec les béatitudes, par exemple, que nous allons continuer de méditer dans les semaines qui viennent. Dans le cas des mages, c'est l'étoile qui est le point de départ de leur aventure. Mais ne nous y trompons pas, cette étoile, elle ne sort pas de nulle part. Les mages n'ont pas vu une étoile qui venait pif paf pouf d'apparaître comme ça dans le ciel en se disant « Oh ben oh là là, quelle est jolie cette étoile. Tiens, le roi des Juifs vient de naître. » À aucun moment les mages ne se sont dit ça. Cette étoile, elle vient du livre des Nombres, des Écritures. Nombres 24, verset 17. « Une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève de Judas. » C'est la parole de Balaam, un prophète qui, comme les mages, vivait en Orient, pas en Israël, en Orient. Cette parole de la Bible, elle annonce un souverain, celui qui tient le sceptre, qui naîtra en Judas. L'étoile est le signe qui lui est accolé, un signe que les mages s'approprient. Ils ont repéré le signe de la venue du roi des Juifs et cela les met en mouvement. Ça génère une opportunité. Nourris par cette prophétie, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose de cette naissance. Leur éducation, leur sensibilité au monde, leur ouverture au monde, leur a permis de saisir une opportunité. Ce qui n'est pas le cas de la cour du roi Hérode, qui lui semble isolé du monde réel, rabougri dans sa vision unique. Cette première étape, mes amis, l'analyse, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous lisons la Bible. ou lorsque nous entamons un temps d'écoute ou une prière de repentance, lorsque nous nous plaçons devant Dieu pour essayer de comprendre ce qui cloche, ce qui ne correspond pas à l'espérance de Dieu, ce que la Bible nomme le péché. La prière consiste à regarder la vie telle qu'elle est, en repérant ce qui dysfonctionne au regard de la parole de Dieu. Une fois que nous avons repéré les problèmes, on peut alors passer à l'étape suivante. Une première étape, l'analyse. Observer, écouter, comparer, se remettre en question, essayer de réconcilier les choses, comprendre ce qui ne va pas ou ce qui nous pousse en avant. Une analyse. Et une deuxième étape, c'est l'objectif. Définir un objectif, c'est le meilleur moyen d'éviter une agitation stérile. Il s'agit de donner du sens à son action. Il s'agit de mettre du sens dans sa vie. Pour les mages, ce sens, cet objectif, c'est d'aller adorer le roi des Juifs. Ça, c'est leur objectif. Aller adorer le roi des Juifs. Pour Hérode, il s'agira de l'assassiner. Choisissez votre camp. Les mages vont se mettre en route en sachant pourquoi, vers quoi. Ils savent quel est l'objet de leur quête. Ils ne partent pas juste à l'aventure en se disant « on découvrira bien ce qui va se passer ». Ils savent quel est l'objet de leur quête. Ils veulent aller adorer le roi des Juifs. Le fait de savoir quelle est leur quête leur évitera de tâtonner, de tourner en rond, d'errer pendant 40 ans dans le désert et d'y mourir bêtement comme la génération des Hébreux sortis d'Égypte. Ils avaient refusé l'objectif, ils le connaissaient, objectif terre promise, mais ils l'avaient refusé et faute de perspective, ils ont tourné en rond et fini par creuser leur propre tombe. Ici, la spécificité chrétienne, elle consiste à déterminer la finalité qui sera la plus vivable, la finalité de notre vie qui sera la plus fidèle à l'Évangile. C'est quoi la finalité de notre vie? En tant que chrétien, les mages l'adorent. Ça, c'est la finalité. Pour eux, ils l'adorent. Adorer, se prosterner, c'est non seulement un geste d'humilité, mais aussi un geste d'allégeance. Se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne règne sur nous. Dans le cas présent, c'est faire de Jésus, l'enfant Jésus, leur Seigneur. Plus tard, selon l'évangile de Jean, Simon-Pierre dira à Jésus, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » Ça, c'est une manière de reconnaître l'autorité de Jésus et le fait qu'il est dépositaire d'une puissance de vie dont nous voulons être inspirés dans notre vie quotidienne. À qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Vers qui courons-nous ? Qui écoutons-nous ? Comment est-ce possible que je passe plus de temps à faire ma revue de presse qu'à lire ma Bible ? Alors je sais, quelqu'un a dit il faut avoir le journal dans une main et la Bible de l'autre. Mais si ça penche trop d'un côté, est-ce que c'est normal ? Qui écoutons-nous ? Tu as les paroles de la vie. Les mages ont pour objectif de faire allégeance à Jésus, de donner à leur vie le sens de l'évangile, adorer Jésus. D'autres partent de chez eux pour faire allégeance à l'État islamique. Là encore, choisissez votre camp. D'autres auront pour objectif, et je le sais parmi nous, de donner du sens à leur vie par une profession qu'ils exercent avec passion, fidélité, par un engagement associatif ou par un engagement dans l'Église. Merci pour ce que vous faites. Par un service à rendre à des personnes en difficulté, peut-être par un soutien politique, par une grande cause à défendre. L'important dans la vie, c'est de savoir vers quoi on tend. C'est aussi cela la foi, être tendu vers quelque chose qui compte pour nous. Qu'est-ce qui est sacré? Vers quoi je vais tendre mes efforts, mon intelligence, ma créativité? Vers quoi vais-je faire servir mes moyens? Analyse, objectif. Une troisième étape, les moyens. Il ne suffit pas de décider d'un projet. Après, il faut mettre des moyens en œuvre pour réaliser ce projet. Sinon, cela revient à s'en remettre à la pensée magique. Ça se fera sans moyens. Il ne suffit pas de vouloir que l'Église soit pleine. Encore faut-il s'en donner les moyens. Une Église pleine, ce n'est pas un objectif évangélique, soit dit en passant. On peut imaginer que les mages se sont bien équipés pour aller jusqu'à Jérusalem. On constate donc qu'ils ne négligent pas les moyens pour atteindre leur objectif, qui est d'adorer le roi des Juifs. Ils ont analysé, ils se sont fixés un objectif, ils se donnent des moyens. Ils ont pris des trésors pour l'honorer. Et dans ces trésors, ils choisissent de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Ce qui signifie qu'ils le reconnaissent comme un roi, l'or, comme un humain, la myrrhe dont on embaume les morts, et comme un prêtre, l'encens. Les mages ont pensé à la bonne manière d'exprimer leur reconnaissance envers le roi des Juifs. Dans toutes ses dimensions, pas juste un bébé dans une crèche, mais un roi souverain, un humain, Dieu fait homme, la spiritualité, un prêtre intermédiaire entre Dieu et nous, qui nous donnera la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. C'est possible d'être réconcilié avec Dieu. C'est possible de ne pas être en bisbille, en bataille continuelle avec lui. Il est venu pour ça. Par ailleurs, les mages ont su faire preuve d'agilité quand ils se sont rendus compte que l'itinéraire qu'ils avaient préparé n'était pas le bon. Ils ne sont pas arrivés au bon endroit. Un itinéraire, c'est un des moyens nécessaires pour atteindre un objectif. Il faut savoir par où on passe. Les GPS nous le rappellent. Ils se sont trompés de destination au départ, mais ils n'en ont pas fait un drame. Autrement dit, dans un projet, le droit à l'erreur existe. Moi, je crois qu'il vaut mieux se tromper que ne rien essayer pour être sûr de ne pas se tromper et de ne rien réussir à l'arrivée. Faute d'avoir atteint leur objectif, ils révisent leur but, les mages. Ils changent leur itinéraire, les mages. Ils prennent conseil autour d'eux, les mages. Ils font appel à des personnes compétentes pour venir compenser leurs propres lacunes. Faire appel à des personnes compétentes, ça reste encore aujourd'hui le bon moyen pour atteindre ses objectifs. Les prêtres et les scribes mettent en œuvre une intelligence collective pour convenir que la bonne destination n'est pas Jérusalem, mais est Bethléem. Comme c'était indiqué, encore une fois, dans les Écritures, Michée 5, 1 à 2, c'est à Bethléem que vous le trouverez. Autrement dit, le travail du Saint-Esprit au milieu de nous, il passe aussi par l'intelligence collective. La spécificité chrétienne, elle s'observe par le fait qu'un bon objectif ne s'abandonne pas dès la première difficulté rencontrée. La foi, c'est ce qui nous tend vers ce qui a un caractère sacré. Et le sacré, bien-aimé, on ne l'abandonne pas quand c'est compliqué. Le sacré, on ne l'abandonne pas quand nous n'y arrivons pas immédiatement. La foi, c'est ce qui nous tient ferme avec ce qui vaut la peine que nous donnions de tout notre être. Et finalement, quand l'objectif est atteint, il faut le dire, il faut le marquer. C'est le moment du contrôle. Le contrôle, c'est la vérification que le but qu'on s'est assigné a bien été atteint. On vérifie. C'est ce que font les mages quand ils voient que l'étoile est bien au-dessus du lieu où ils se sont rendus. Ils vérifient, ils contrôlent. Elle est là, l'étoile. Au sens technique du terme, c'est ça l'épiphanie. L'étoile qui brille au-dessus, qui indique qu'on est arrivé au bout de la démarche, qu'enfin on touche à la révélation, au sacré. Et c'est cela qui provoque leur très grande joie. Leur très grande joie, elle est provoquée par l'étoile qui est là. La joie ponctue, couronne l'accomplissement de ce processus. La joie traduit ce moment où on l'a fait. On l'a fait. Ce qui, bien souvent, dit aujourd'hui en ces termes. Yes! On l'a fait. Cette phase de contrôle, elle est nécessaire pour vérifier que nous sommes dans la bonne direction par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Parce que le but n'est pas de s'agiter dans la vie, comme Marthe qui s'agitait pour peu de choses, mais d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si ce que nous faisons ne nous rapproche pas de l'objectif, alors il faut faire comme les mages. Il faut réajuster la trajectoire. Et quand l'objectif est atteint, il faut aussi le savoir, sinon on va continuer à s'agiter pour rien. D'un point de vue chrétien, le contrôle, c'est la célébration. On célèbre ce qui est accompli. Du point de vue chrétien, le contrôle, c'est l'occasion d'une action de grâce. Quand Dieu crée le ciel et la terre, cela ne s'arrête pas au sixième jour, mais au septième, qui célèbre, qui couronne ce qui a été accompli. La célébration, le culte, c'est une manière de prendre conscience que nous avons réussi ce que nous avons entrepris. C'est aussi l'occasion d'être reconnaissant envers ceux et celles qui ont pris part à l'aventure. On est dedans, on est ensemble, on y va les uns avec les autres, avec toutes nos imperfections, avec toutes nos fragilités, nos faiblesses. On y va. La spécificité chrétienne, elle consiste à reconnaître la part de Dieu dans notre histoire. Nous lui devons tout. Cette part de Dieu, on l'exprime maladroitement, mais avec cœur. Quand nous chantons, quand nous passons quelques annonces, quand nous donnons du temps, de l'argent, quand nous célébrons la scène, quand nous prenons du temps, peut-être trop de temps, vous me direz, mais pour méditer la parole de Dieu. Quand nous envisageons des actions concrètes ensemble, quand nous partageons un repas, quand nous prions ensemble, quand nous pleurons ensemble, quand nous nous reconnaissons ensemble, incapables de faire plus, de faire mieux. Dans cette histoire, nous observons que les mages imaginaient que le roi des Juifs devait être dans le palais de la capitale. Les mages imaginaient le souverain entouré des attributs du pouvoir. Et en arrivant sur le lieu dit, ils se réjouissent d'une très grande joie, car non seulement ils ont atteint leur objectif, mais ils découvrent que la grâce de Dieu a dépassé leurs espoirs. qu'elle est incroyablement différente que leurs espoirs. Ce n'est pas un roi plein de force qu'ils sont venus adorer. Ça, c'est l'affaire d'Hérode, et ça finira dans un bain de sang. C'est un roi plein d'humanité. C'est un roi plein de divinité. C'est un roi plein de grâce. C'est une royauté nouvelle, immensément spirituelle, qui change la vie. Jésus change la vie. Nous lui devons tout. Il nous donne sa grâce, il nous relève, il nous restaure, il nous accompagne. Ce n'est pas une royauté qui s'exprimera par la force, ce qui finit vite et mal. Mais c'est une royauté qui s'exprimera par la puissance de l'humanité et de la divinité réunies, qui s'incarne dans l'amour, dans le don de soi, et qui rende la vie nouvelle et éternelle. Alors, chers frères et sœurs, je nous souhaite une année particulièrement réjouissante, avec une formule aussi simple que l'Évangile. Au travail. Bonne année.
Merci beaucoup, Philippe. Voilà, j'aimerais inviter le groupe de louanges pour un dernier chant. Et puis, nous allons aussi prendre l'offrande. Est-ce que je pourrais avoir 3 personnes pour m'assister pour l'offrande? Et il faudrait qu'une de ces personnes, Mathieu, si tu pourrais aller chercher les sachets que j'ai oublié de préparer. Merci. Voilà, il s'agit d'une offrande volontaire. Donc, si vous êtes en visite parmi nous ou pas, soyez libre ou non de donner. Nous voyons ces offrandes volontaires dans la Bible, dans le Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien Testament, à la construction de la tente de la rencontre. Voilà, c'est simplement un appel à la générosité. Il y a des besoins. C'était les besoins de construire la tente. Nous avons des besoins pour ce bâtiment, pour nos employés. L'Église, depuis qu'elle est née, vit principalement des dons des chrétiens, de ses membres, et nous continuons à le faire encore aujourd'hui. Alors, merci d'avance pour votre générosité. Et puis, nous allons chanter un dernier chant.
Un chant qui nous engage. C'est une confession de foi.
Oui, je crois. Personne. Vérité, toi qui as tout créé.
En pensée avec toi, Paul Robert, je vais prier. Seigneur, merci d'être avec Paul Robert, avec toute la famille dans ces temps difficiles. Ce n'est pas la meilleure manière de commencer une année. Mais Seigneur, merci parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi, que tu ne changes pas. Que nous soyons dans la joie, dans la tristesse, tu es là, tu es notre roc solide. Et je prie que cela puisse être manifeste dans sa vie. Qu'il puisse s'appuyer sur toi, continuer à placer sa confiance en toi et que tu sois présent dans son cœur, dans ses pensées, dans cette période de deuil, de tristesse, Seigneur. Merci d'être son réconfort et son soutien dans cette saison. Amen. Voilà, nous avons l'habitude de dire, nous arrivons au terme de ce culte, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on en discute avec notre petit groupe de travail pour les cultes, on se dit en fait le culte commence quand les gens rentrent dans l'église et puis il s'arrête quand ils sortent. Donc c'est pas tout à fait fini. On a fini la partie dans cette salle, mais il y a encore une autre partie dans la partie cafétéria, dans le hall d'entrée. Donc on vous invite à ne pas partir trop vite. Il y aura une surprise, on l'avait annoncé déjà en décembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une surprise qui se mange. Peut-être que vous avez une petite idée de ce dont il s'agit. Merci à Annick et à Xavier qui ont préparé cela pour nous. Donc voilà, on vous invite à sortir tout à l'heure et puis aller déguster cela. On vous invite aussi à accueillir peut-être ceux et celles qui sont nouveaux parmi nous, à lever les yeux, on a du plaisir à se retrouver après les vacances. Mais voilà, soyons conscients de ceux qui sont là et puis soyez vraiment tous accueillis et prenez le temps de venir discuter avec les uns et les autres tout à l'heure. Je vais encore prier pour la fin de ce culte et puis pour cette semaine à venir. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous. Merci pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, merci parce que tu es là, présent, dans toutes nos situations, dans les moments de joie, dans les moments de difficulté, quand ça va bien, quand ça va mal, nous pouvons compter sur toi. Et Seigneur, que tu nous donne des objectifs à atteindre pour cette année, que tu nous mettes en route, que nous puissions nous mettre en route au travail cette semaine, dans les mois à venir, et que nous puissions trouver cette joie qui vient des choses accomplies, des bonnes choses accomplies avec toi, Seigneur. Merci de nous accompagner chacun là où nous en sommes, dans notre voyage avec toi. Tu sais ce dont nous avons besoin chacun. Merci de bénir chacun, chacune pour cette semaine. Amen. Et à tout à l'heure.